LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Quand j'étais, je pense, en CP, quelque chose comme ça, j'avais 6 ans, dans la cour de récré, j'avais un meilleur ami qui était un garçon. Parce que j'avais commencé en maternelle par avoir des meilleures amies qui étaient des filles. Et puis un jour, elles m'ont dit que non, en fait, elles préféraient jouer avec les filles et que les garçons allaient avec les garçons, les filles avec les filles. Donc, j'ai pris le premier petit garçon qui était assis à la table d'à côté et on est devenus copains. Ça se passait très bien. Et puis à un moment, j'ai dit « je voudrais être ton amoureux, on va dire que je suis ton amoureux ». Et à l'époque, c'était les années 80. Moi, en tant qu'enfant, je n'avais pas du tout entendu parler du concept d'homosexualité. Ça n'existait pas à la télévision, pas dans des émissions pour enfants en tout cas. Et je pensais avoir inventé quelque chose d'incroyable, de nouveau, je jouais comme les enfants qui disent qu'ils sont amoureux. Je lui envoyais des baisers et je disais je t'aime. Et la maîtresse est arrivée, elle a foncé à travers la cour quand elle a vu ça de loin et elle est venue me parler entre quatre yeux très sérieusement, d'une façon où je sentais que j'avais fait quelque chose de grave en fait. Et elle m'a dit les garçons ils aiment les filles et les filles aiment les garçons et on peut pas être deux garçons amoureux, tu ne fais pas ça. Et j'ai eu extrêmement honte de moi en fait, même si je savais pas pourquoi. J'en ai pas parlé à la maison, j'en ai pas parlé à mes frères et sœurs et j'en ai plus jamais parlé avant très longtemps parce que c'était quelque chose de honteux que j'avais compris, même si je ne savais pas pourquoi. C'était devenu, ça y est, le tabou de l'homosexualité s'était imposé à moi.
Être un bonhomme, une série documentaire de Romain Debec-de-Lièvre et David Jakubowian. Épisode 3, la grande peur d'Alpha.
On sait très bien, là, avant même qu'on vienne au monde, nos parents, s'ils savent qu'on est un garçon ou une fille, il y a déjà tout un mécanisme qui se met en place dans la tête des parents, une construction imaginaire de quel est le potentiel de cet enfant, genré. Les cadeaux, les couleurs de la chambre, quel métier il va avoir, le nom, tout ça.
Francis Dupuy-Déry.
C'est une de nos socialisations les plus profondément ancrées en nous.
Professeur en sciences politiques.
Il y a d'autres socialisations qui sont très importantes. Dans des sociétés où il y a du racisme, il y a des socialisations liées au racisme, il y a des sociétés de classe, il y a des socialisations liées à la classe, etc. Je ne dis pas que c'est la seule socialisation nationale, linguistique, culturelle, etc. Mais la socialisation genrée, elle est, je pense, une des plus profondes socialisations qu'on a. Et en plus, la question des hommes et des femmes, contrairement aux autres distinctions de classe ou raciale, c'est qu'en fait, les hommes et les femmes, ils vivent ensemble.
Bien souvent, toutes ces règles qui régissent le genre, on les intériorise et on ne les questionne pas. En fait, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de raison qui s'exprime clairement pour lesquelles les filles doivent jouer à la poupée et les garçons doivent jouer avec des outils de chantier.
Daisy Le Tourneur, essayiste.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les discours de la Manif pour tous et les discours conservateurs. C'est qu'on bouscule un ordre naturel qui ferait que les petites filles aimeraient le rose et que les petits garçons aimeraient jouer avec des camions et que si on y touche, il va se passer quelque chose de grave. Quoi exactement ? On ne sait pas. Il y a l'homosexualité, évidemment, mais pourquoi c'est grave ? Bon, c'est contre nature, c'est tout. Ces règles, en fait, elles se justifient par elles-mêmes, c'est juste comme ça.
Moi, il y a un texte qui m'a marqué très tôt, quand j'étais étudiant, c'est un extrait des mythologies de Roland Barthes. Pourtant, Roland Barthes n'est pas connu pour avoir beaucoup travaillé sur la question. Mais il y a un chapitre, quand j'interviens dans des universités ou des écoles d'art, j'en parle souvent aux étudiants, aux étudiantes, parce que c'est quand même un livre qui est publié en 57, du siècle précédent, donc ça commence à être une vraie vieillerie. Et malheureusement, il est d'une actualité toujours aussi...
Jean-Charles Masséra.
Terrible, j'ai envie de dire. C'est la mythologie qui consacre aux jouets français.
Artiste et écrivain.
Parce qu'il explique très vite que les petits garçons ont des mécanos pour organiser, construire le monde. Des mécanos avec des modèles à suivre, mais aussi des possibilités d'inventer tout un tas d'objets. Ce qui est intéressant, c'est Barthes, c'est que c'est des modules neutres. Enfin, il emploie un autre terme, mais le petit garçon peut tout construire. Et il peut organiser et construire un monde en soi, quoi. Et la petite fille, elle est non seulement elle est cantonnée dans l'espace domestique, c'est-à-dire ça c'est classique, donc l'homme s'occupe des affaires du monde, des grandes affaires, et la femme reste cloisonnée dans l'espace domestique, mais en plus, les seuls jouets qu'elle a, c'est des jouets déjà construits. C'est-à-dire des maisons de poupées, tout est déjà construit. Donc elle ne peut que organiser son existence à l'intérieur d'un espace donné déjà, d'une configuration donnée. Alors que le petit garçon a la liberté de soit effectivement de jouer avec un garage, un château fort, etc. Mais il a également la possibilité de partir à la conquête du monde, de le changer, etc. En tout cas, il a ce choix-là. Elle ne l'a pas, sauf si elle décide de jouer avec des jouets de petit garçon. Ce qui est très difficile encore aujourd'hui quand vous allez dans un magasin dont on ne nommera pas. Enfin, qu'on ne nommera pas, mais vous avez encore un étage quasiment rose et un étage bleu. Enfin, on en est encore là, c'est quand même... Alors, dans les grandes villes, à Paris, vous avez de temps en temps un entresol orange. Ouais, c'est cool. Mais on ne l'a pas à Nevers, quoi. Et même si on me dit, mais après, les petites filles, elles grandissent, elles passent là-dessus, c'est un peu comme elles ne restent pas Hello Kitty toute leur vie, etc. En même temps, ça formate déjà beaucoup de choses, évidemment. Évidemment.
Vous savez qu'il y a des trucs qui s'appellent Bricoman, par exemple. Il y a un magasin qui s'appelle Bricoman. Donc, bricolage égale man. Superman, Bricoman. Non, mais c'est improbable, quand même.
Luz.
Vous avez jamais remarqué que les outils...
auteurs de bande dessinée.
...importants dans le bricolage sont féminisés. La perceuse, la ponceuse. Et du coup, comme si, en fait, il y avait une espèce de besoin d'être accompagné, tu vois, de besoin... L'homme seul ne peut pas s'en sortir, en fait. Il a besoin d'une présence féminine à côté de lui. Et la présence féminine, bah, elle est peut-être aussi petite dans le garage, avec tous ses outils. Alors, perceuse, visseuse, voilà, la visseuse. Est-ce qu'un homme peut vivre sans visseuse?
Ça va pas marcher.
Voilà, ça va mieux dans ce sens-là. Ouais.
Parking de la zone commerciale de Castelnaudary.
Moi, du coup, la mienne,
c'est bon pour toi. Je sais pas si j'ai rebranché le ventilo, attends, je vais aller voir.
Là, en général, c'est une petite zone d'essai. Pour ceux comme lui, là, qui a 2-3 réglages à faire, 2-3 trucs, les bricoles, c'est-à-dire qu'on a cassé sur le terrain, on vient, on bricole ici. On va dire que là, c'est la zone atelier, repos, boisson, bah, c'est, voilà. Après, on utilise d'autres parkings de l'autre côté, où on met des plots, et là, on fait un petit circuit. Ça peut être drift, ça peut être pistard, bah, c'est pour ceux qui roulent route. On utilise de grands bouts de ligne droite, là. Pour lorsqu'il y en a certains, comme lui tout à l'heure, vous voyez, il m'a demandé le GPS. C'est qu'il est, je pense qu'il a décidé de le coller dedans pour savoir combien il peut toucher en bout de ligne droite. Donc là, on commence à rentrer, comme je vous disais tout à l'heure, le speedrun, la vitesse, la perf. Que de la perf. Là-bas, alors là-bas, en général, on se casse pas la tête, on met le cerveau sur off et on va faire le tour. C'est la zone TT. C'est ici que tout le monde va se taper plus ou moins la bourre. C'est... Hey! Ah oui. Ouais, il va essayer de se retourner tout seul. Moi j'ai commencé, j'en avais 12, j'en ai 51 aujourd'hui, donc ouais, ça va faire un peu plus de 30 ans que je fais du modélisme. On va me définir comme un passionné. Dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est la passion avant. Je pense que pour continuer à pratiquer à mon âge, oui. Parce que je prends l'exemple de madame, elle ne veut même pas savoir, elle trouve ça complètement ridicule que certaines personnes puissent mettre 1500 balles dans une machine où elle ne peut pas mettre foutre son cul dedans. Ah, ça, c'est un échelle 1 cinquième. Tout terrain. C'est un des jolis, bah, c'est un joli joujou. Moi, je pourrais même pas vraiment vous le présenter, ce modèle. Hein. C'est mon bébé de prédilection. Voilà, c'est ma machine préférée. Voilà. Ça reste, oui, il faut être honnête, ça reste du jeu, du loisir. C'est pas du jouet. Le jouet ne se répare pas. Vous avez acheté la voiture, vous avez eu un crash, vous venez, je vous dis, mais attendez, il y a une tige d'amortisseur, ceci, cela, il y en a pour 25 balles. Là, le plan, si tu veux le faire toi-même, et on en a fini. 2 heures après, tu roules. La différence entre le jouet et le modélisme, elle est juste là. C'est la réparation.
Les objets sont aussi une extension, en tout cas pour pas mal d'entre nous, une espèce d'extension du phallus au sens psychanalytique, c'est-à-dire du pouvoir, mais aussi tout bêtement une extension de la bite. C'est vraiment quelque chose qui est, je veux dire, la consommation avec le portable, le fait d'avoir le dernier cri de portable, c'est quelque chose de très masculin, le dernier cri de quelque chose, d'avoir la meilleure machine à café. En fait, demandez autour de vous, demandez s'il y a beaucoup de meufs qui disent « j'ai la meilleure machine à café du monde ». Ça peut arriver, mais moi j'ai rencontré beaucoup de mecs pour lesquels c'était le cas. Comme si être le meilleur dans un domaine, quel qu'il soit, qui peut être aussi un domaine domestique, un domaine où parfois qui ne les intéresse pas, mais il y a un espace dans le domestique dans lequel ils sont super bons. Ou un autre cas que j'ai rencontré, genre « je m'occupe du jardin, t'inquiète, je m'occupe du jardin ». Paf, le mec il disparaît. Il revient effectivement une heure et demie plus tard et il a tout acheté. Il a l'uniforme. Il a l'uniforme du type qui va faire son jardin. Il a le meilleur. Et en fait, moi, je trouve ça fatigant d'être le meilleur. C'est vraiment fatigant. C'est à un moment donné, il faut dire au mec, lâchez-vous, pétez un coup, genre détendez-vous.
Moi, si j'étais une femme, tu... tu me trouverais... Imagine-moi, ma tête, mes yeux, mes traits, mon corps, avec juste deux petites proéminences bien placées, tu... tu pourrais potentiellement éprouver du désir pour une femme comme moi.
Non.
Quoi ? J'ai t'aidé à imaginer. Imagine que je m'avance progressivement vers toi, comme ceci.
Je vais refaire un match.
Passons du bon temps. Bonjour, Doug. Votre malléole est bien... est bien acérée. Puis-je remonter le long du mollet? Puis-je palper cette rotule divine, ainsi que ces belles mains effilées de pianiste? Ces petits avant-bras que j'aime à parcourir avec la poésie d'une... d'une salade de doigts qui se promène comme ceci et qui va se saisir du petit oiseau. Allez, oh, mais tu sens le rat crever, sale chien. Allez, Bartholdon. T'as le fion, c'est...
Le concept d'homosocialité, en fait, c'est un terme qui est utilisé pour décrire la tendance qui existe à la fois chez les hommes et chez les femmes à se à rassembler avec des individus du même sexe, à former des groupes d'amitié entre hommes d'un côté, les filles de l'autre, chez les personnes hétérosexuelles. En tout cas, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Une soirée où il y a... trois couples hétéros d'invités, et ben en fait les mecs vont discuter entre eux et les filles vont discuter entre elles. Voilà, l'homosocialité, c'est ça. Et chez les hommes, il y a un truc qui crée une tension au sein de cette homosocialité, c'est qu'il y a un énorme tabou de l'homosexualité et la peur absolue d'être perçu comme gay chez énormément d'hommes hétéros, elle est structurante dans leur relation aux autres hommes. Ce qui fait que, malheureusement, en fait, quand on est un homme qui a été élevé dans une société patriarcale et qui nous a inculqué que les hommes sont un peu les êtres supérieurs, ils sont plus intelligents, leur conversation est plus intéressante, leur humour est plus drôle, si tant est qu'on puisse dire que les femmes ont de l'humour, leurs loisirs sont plus intéressants, leurs conseils sont bien meilleurs, bref, tout pousse à dire aux hommes que la compagnie des autres hommes, c'est ce qu'ils devraient rechercher à tout prix. Mais il ne faut pas, par contre, tomber amoureux d'un autre homme. Là, d'un coup, on brise un tabou très grave. On va être mis au banc de la société des hommes. Et pour défaire cette tension, ce qui va souvent se faire, c'est justement des blagues homophobes qui permettent de réaffirmer que, en fait, j'aime beaucoup les hommes, j'aime beaucoup passer du temps avec les hommes et je trouve que les hommes, c'est formidable et beaucoup mieux que les femmes. Mais attention, je suis pas un PD. Et ça, en fait, plus la société accepte les personnes homosexuelles, plus cette tension de l'homosexualité, elle est palpable entre les hommes hétéros, et plus ils ressentent le besoin, en fait, de clamer fort que peut-être qu'ils sont pas homophobes, mais surtout ils sont pas gays.
Chez les homos, bien sûr, il y a aussi une homophobie intégrée qui est très particulière, très à l'œuvre et très encouragée par les sites de rencontres.
Michael Delis.
Et qui va avec ce truc de...
comédien, auteur et metteur en scène.
Les mecs cherchent des mecs virils, c'est les mots qui sont dits. Des mecs discrets, ce mot de discrétion qui revient, il faut pas que ça se voit. La folle, la tapette, la pédale, elle est diabolisée. Elle est présupposée pas excitante. Et du coup, il y a en fait une sorte d'hétérosexualisation de l'homosexualité, en disant, ok, le bon PD, c'est celui qui se voit pas trop, qui déborde pas trop, qui ne va pas nous envahir avec ses froufrous, sa voix hystérique et ses grands mouvements et ses poignets cassés, qui se fond. Donc en fait, le bon PD, c'est celui qui n'existe pas, celui qu'on voit pas. En fait, mais j'ai déjà eu des amants qui m'avaient dit, je me rappelle très bien, un mec, on devait aller à Ikea, et il me dit, tu mets pas ton manteau qui fait folle, quoi, parce que j'avais un manteau avec un col en lapin, quoi. Alors oui, effectivement, le col en lapin, c'est peut-être parce qu'il y a de plus hétéro centré. Mais je dis, le mec me dit, avant qu'on aille à Ikea, j'étais un pauvre dessous de plat, tu t'habilles correctement pour pas que ça se voit, quoi. Alors qu'au lit, il y avait pas de problème, il était très content de tout ce qui se passait. Je me dis, bah, là, il y a vraiment tout à revoir, quoi. Donc ouais, non, ça c'est très prégnant. C'est une souffrance pour beaucoup de jeunes homos. T'es en train de te former, t'as pas encore le bon corps qu'il faut. T'es ado, tu doutes, t'es un peu adipeux, rien ne va, et on se dit qu'en plus il faut être surgaulé. C'est hyper inhibant. Parce que du coup, ça crée, voilà, t'es hors marché. C'est-à-dire que t'es à la marge de la marge, quoi. Donc bon courage pour te sentir bien. Voilà.
Alors les études sur les masculinités, elles sont arrivées en France il y a une dizaine d'années, un peu plus peut-être, mais c'est un champ scientifique assez récent, assez novateur, donc il y a plein de choses à faire, et notamment sur le monde du travail, paradoxalement, parce que c'est quand même là où les hommes expriment leur domination masculine de manière assez forte, ça a été assez peu étudié, voilà.
Audrey Voile.
Mais je pense qu'il y a quand même un boulevard sur cette question, et notamment...
sociologue du travail.
Quand on dit qu'une entreprise est masculine, c'est pas seulement dire qu'elle est dirigée par des hommes, c'est aussi affirmer que les pratiques d'entreprise favorisent les hommes. Et c'est un constat qu'on fait dans beaucoup d'enquêtes sociologiques, pour plusieurs raisons. La première, c'est que typiquement, les études qui mènent à des carrières ascensionnelles, par exemple, je prends le concours de l'ENA, qui est une voie royale dans la haute administration, leur concours d'entrée valorise la confiance en soi et un rapport stratégique au diplôme. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup plus chez les hommes. Par ailleurs, la deuxième raison, c'est que, en général, l'investissement et l'engagement professionnel qui sont exigés dans un certain nombre de métiers, ils sont possibles qu'à la condition de se délester d'une partie du travail domestique. Et donc, forcément, ça exclut une majorité de femmes. Et la troisième chose, c'est que dans une majorité d'emplois de cadres, les qualités qui sont attendues dans la pratique du métier, donc à la fois l'assurance, le goût du risque, de la compétition, etc., ainsi qu'une capacité à affronter des grosses charges de travail, c'est des qualités pour lesquelles les hommes ont été majoritairement socialisés. Et ça participe à promouvoir activement un modèle de carrière au masculin neutre et en retour à former ce qu'on appelle des boys clubs, donc des espaces de travail où les hommes se cooptent entre eux et évoluent principalement entre hommes. Et c'est souvent des hommes qui se protègent entre eux aussi. Vraiment dans un réflexe de peur, je pense, parce que de ce que j'ai pu voir dans mes enquêtes, ce qui a été très frappant, c'est que la majorité des hommes sont animés par une vraie peur de l'impuissance, dans le sens où le travail, c'est quand même assez constitutif de l'identité masculine. Et ne pas réussir à avoir un travail valorisé, valorisant, dans lequel on se sente bien et qui permet de subvenir aux besoins de sa famille, ça peut être extrêmement angoissant et perturbant dans la construction de son identité masculine. Et donc cette hantise de l'impuissance, justement, elle conduit les hommes à des réflexes d'entre-soi qui sont assez forts pour créer des espaces de protection, en fait, où les hommes vont se recréer une espèce de famille, quelque part, et face à la précarisation du monde du travail.
Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ces hommes qui ne voient pas le problème. Il y a toujours ce fameux moment
Jean-Charles Masséra,
de grande solitude intellectuelle où,
artiste et écrivain.
La seule réponse que j'ai, en fait, elle est, je botte pas en touche, c'est qu'elle est plus large. Encore une fois, là, je vais dézoomer. C'est que je pense tout simplement que les gens prennent conscience qu'ils peuvent perdre une part de pouvoir. Enfin, c'est juste qu'on va perdre des acquis. Il faut juste, à un moment donné, il va falloir partager. Et il y a tout simplement des personnes qui ont peur de partager ou de perdre leur poste ou de perdre leur, je sais pas, leur pouvoir d'achat. Pour parler de manière très bête, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça.
Maintenant, quand je vois une femme, je change de trottoir. Elles sont là, dans la rue, à nous narguer avec leur sac à main et leur mascara, alors que des gars comme moi se retrouvent sans emploi. Des fois, je voudrais être une meuf pour avoir tous leurs avantages.
Tu te poses trop de questions. Approche.
Extrait de la bande dessinée Testostérore de Luz.
Viens me serrer la main.
Mais ça fait hyper mal.
Viens plus près. La vie, ça fait hyper mal, Kevin. Montre-moi que t'es un warrior.
Ça suffit de s'en prendre plein la gueule. Je suis un mec, merde. C'est à moi qu'on manque de respect. Faut que ça change.
Bravo, Kevin. C'est grâce à la rage d'hommes comme toi que ça va changer.
Désolé, Joe. Ça me fait trop chialer.
Tu ne pleures pas. Tu sues ta colère.
Le discours de la crise de la masculinité, ma grande surprise, en fait, j'ai réalisé que ce discours-là, on l'entendait au moins depuis la Rome de l'Antiquité et assurément depuis le XVIe siècle dans le Royaume de France, dans le Royaume d'Angleterre, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle dans la Révolution française, chez les Républicains, chez les monarchistes, dans les colonies, au XIXe siècle en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en France, bref.
Francis Dupuy-Déry.
Au XXe siècle et au début du XXIe siècle, on l'entend partout.
Professeur en sciences politiques.
Même au Vatican, dans les communautés catholiques, dans les communautés musulmanes, dans les communautés juives. Et donc, en fait, je suis arrivé à la conclusion que le discours de la crise de masculinité, c'est vraiment un discours, c'est-à-dire que ce n'est pas un fait, c'est un discours qui est imbriqué avec l'identité et la représentation qu'on se fait de la masculinité. Elle est toujours menacée, toujours en crise. Et elle dit toujours la même chose, c'est-à-dire on dit à la fois que la masculinité est menacée par les femmes et les féministes ou par l'indifférenciation des sexes. Et du même souffle, on réaffirme une masculinité conventionnelle qui est toujours la même, qui est toujours celle de un homme, c'est dominant, c'est fort, c'est puissant, c'est actif, c'est etc. Et c'est surtout pas féminin. Donc tout ce qui est féminin est considéré comme une pathologie, une agression, une intoxication. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous pouvez entendre des hommes tenir un discours de crise de masculinité, quel que soit le régime politique. Donc, que vous soyez en monarchie, que vous soyez en république, que vous soyez en dictature, théocratie, régime de type soviétique, vous pouvez entendre parler de crise de masculinité, quel que soit le système économique, quel que soit le régime de la loi au niveau du travail, au niveau de la famille, que les femmes aient le droit de voter ou pas voter, de se divorcer ou pas divorcer, de garder leurs enfants, etc. Ça n'a aucune importance. À tout moment, vous pouvez entendre que les hommes sont en crise de masculinité. Et évidemment, c'est toujours mis au goût du jour. Donc aujourd'hui, on se convainc que tous ces problèmes sont liés, comme vous le savez évidemment en France, à mai 68. Donc s'il n'y avait pas eu mai 68, apparemment on vivrait encore de manière naturelle entre les hommes et les femmes, et tout irait bien, etc. Mais le maudit mai 68, là, a tout fait basculer. Et on s'en est toujours pas relevé. Ça, c'est la thèse d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que dans l'entre-deux-guerres, on disait déjà de toute façon que les hommes étaient en crise. les mouvements fascistes étaient et s'appuyaient sur cette idée de la crise de masculinité. La masculinité aurait été broyée dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et serait menacée par le nouveau féminisme, par la judaïsation de la société, par la bohème contre-culturelle. Donc on entend ça tout le temps.
Le masculinisme, dans sa théorie la plus basique, c'est de dire la civilisation telle qu'on la connaît est en train de disparaître, est en train de s'émasculer à cause du féminisme et plus largement des femmes.
Pauline Ferrari, journaliste.
Le fait que le féminisme soit devenu un sujet important à l'agenda politique, la question des violences faites aux femmes par exemple, des inégalités salariales, ça créerait une émasculation des hommes et des valeurs masculines traditionnelles, un peu le travail, famille, patrie, c'est-à-dire parmi les thèses masculinistes, notamment une de mes préférées, c'est qu'il y a beaucoup moins de sperme qu'avant, qu'il y a 50 ans. Il y a beaucoup moins de testostérone chez les hommes qu'il y a 50 ans. Et eux l'expliquent par le fait que, alors il y a des théories plus ou moins fantaisistes, mais d'une part que les perturbateurs endocriniens auraient en effet perturbé les hormones mâles et qu'on aurait moins de testostérone dans le corps. Il y a aussi la théorie que les femmes, maintenant qu'elles prennent la pilule, de par l'urine qu'elles mettent dans les fosses septiques, l'eau qu'on boirait, surtout aux États-Unis, deviendrait en fait bourrée d'œstrogènes, et donc ça rendrait les hommes homosexuels. Ça, c'était Alex Jones aux États-Unis, qui est un célèbre conspirationniste, qui avait dit ça en plein live. Enfin voilà, il y a pas mal de théories aussi un peu sur le déclin de la civilisation. C'est un sujet qui occupe énormément, y compris les médias français. Je pense au Figaro, notamment, qui fait beaucoup d'articles sur le fait qu'il y a beaucoup moins de natalité qu'avant. Et ce serait lié un peu au féminisme aussi, parce que les femmes auraient le choix, en fait, de ne pas vouloir faire d'enfants. Et ça mettrait les hommes dans une très mauvaise posture. Donc ça, le déclin de la civilisation, c'est vraiment quelque chose. L'autre chose, c'est le fait que le féminisme aurait opéré une espèce de pillage des hommes, de leurs valeurs financières, de leurs valeurs foncières aussi. C'est toute l'idée un peu de je veux pas me marier avec une femme, ou en tout cas, il faut que je fasse un bon prenup, parce que si je divorce, ça va me piquer tous mes biens. Il y a celles qui font les enfants dans le dos aussi. Il y a tout un peu l'idée autour de la garde des enfants, comme le défendait SOS Papa en 2013 aussi. Donc, c'est-à-dire que la justice sera en faveur des mères de famille et pas en faveur des pères. Donc, un peu sous cette idée-là que le féminisme serait injecté dans toutes les sphères, les grands pouvoirs. Alors, la justice, les institutions politiques, les médias, bien évidemment. Les médias, c'est un gros sujet aussi. On parle que de féminisme, que de droits LGBTQIA+, aussi. Et que ça causerait une émasculation des hommes.
Bon alors, quelle que soit l'origine de votre attitude, que ça vienne de votre enfance, de vos expériences avec les femmes, maintenant, c'est le moment de changer tout ça. De reprogrammer votre esprit et votre corps et votre bouche pour devenir des hommes meilleurs. Est-ce que c'est clair? Bon alors, cette poupée, c'est Patricia et c'est une amie. Et il se trouve que Patricia vient de décrocher une promotion au bureau aux dépens de 6 autres candidats. C'est la plus jeune à jamais avoir eu ce poste. Quelles sont les choses à ne pas lui dire?
Miss, je me la pète?
Excellent.
Qui t'a sucé pour avoir ce job?
Ok.
Espèce de sale petite chienne.
Ok. Ok. Que devrions-nous lui dire?
Bien joué, Patricia.
Bien joué. Bien joué, Patricia.
La solution pour le réseau de la crise de la masculinité, c'est jamais de repenser de manière critique aux identités de genre et de dire oui, bon, en fait, est-ce que tout ça, ça a bien du sens? Mais c'est d'appeler à un retour, une réaffirmation des masculinités les plus conventionnelles. Et vous avez ça de manière caricaturée ou stéréotypée chez des influenceurs sur le web, par exemple, qui interpellent les hommes et qui vous disent « Moi, je vous explique comment être un vrai homme, être viril, etc. Laissez-vous pas avoir par les nouveaux discours, etc. Il faut savoir ce que c'est un vrai homme. Un vrai homme, vous savez ce que c'est. Hein? Ça mange de la viande, beaucoup. Ça fait de la chasse, si possible. Ça peut faire de la boxe, ça drague, etc. » Vous avez aussi l'exemple également stéréotypé des retraites pour hommes seulement, de type Mankind Project, qui est en fait aussi un truc de cash. Hein. On vous demande des centaines d'euros pour aller passer 3 jours dans des conditions particulièrement pénibles, à vous traîner nu dans la boue et à vous prendre dans les bras, à vous masser, à vous battre entre vous et à pleurer en parlant de votre père, animé par un animateur qui dit qu'il est soit psychologue, soit qu'il est allé en Inde et qui revient avec des clés de spiritualité orientale. Et là, qu'il y a des archétypes, le père, le chasseur, le sage, le guerrier et tout. Ben là encore, on est dans la confirmation d'une masculinité tout à fait conventionnelle.
On va essayer. Là, c'est une vidéo d'une jeune fille à l'école. Pas très étonnant.
Hop. Pauline Ferrari.
Truc de jeune, ok.
Autrice de Former à la haine des femmes.
J'ai créé des faux comptes TikTok. L'un d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, l'autre d'un jeune homme de 16 ans. Et j'essayais de voir, en fait, c'était plus un test algorithmique, même pour essayer de constater à quel point ces vidéos arrivaient dans mon fil d'actualité, sans que je les ai demandées, ou juste par la manifestation d'intérêt que pourraient avoir, en fait, plein de jeunes hommes entre 16 et 20 ans, c'est-à-dire bien aimer le sport, avoir vécu une rupture récemment, chercher des conseils de drague, ce genre de choses. Et sur ces deux comptes-là, je suis arrivée sur des contenus que moi, je qualifie en tout cas comme masculinistes, en moins de 15 minutes, voire en moins de 10 minutes. Il y a beaucoup de vidéos comme ça.
Les moutons sont obéissants et dociles. Ils ont peur de la solitude. Ils ne réfléchissent pas et suivent le groupe sans aucune raison. D'autre part, nous avons les loups. Ils sont sans cesse à la recherche d'indépendance et de liberté. Ils ont toujours l'esprit critique et remettent tout en question, même si peu de personnes sont d'accord avec eux.
Mon travail, ça a été de regarder des vidéos de masculinistes, beaucoup de regarder leurs posts sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook aussi parfois, essayer de comprendre le discours, essayer de comprendre qui les soutenait, de qui s'inspirait, et d'essayer de voir un peu comment ce réseau-là masculiniste était tentaculaire et organisé, en fait, politiquement. Donc c'était beaucoup aussi de la consommation de contenu et de l'analyse de contenu pour essayer de montrer que ces contenus-là, ils sont pas difficiles à trouver, c'est pas le fin fond du dark web des internets, non, c'est des vidéos qui pop sur notre algorithme, et c'est beaucoup plus large, en fait, que ce qu'on pense.
Les loups représentent seulement 1% de la population. Si tu regardes cette vidéo, tu en fais sûrement partie. Bienvenue dans l'équipe champion. Abonne-toi, les choses sérieuses ne font que commencer.
Moi, ça fait plus de 3 ans que je fais de l'éducation aux médias, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où je vis. Dans tout type d'établissement, des REP plus à des collèges et lycées très prestigieux. Et en parallèle de ça, moi, je m'intéresse aux communautés masculinistes depuis assez longtemps, même avant que je sois journaliste. Et c'est un peu le croisement entre ces deux mondes-là, c'est-à-dire un monde virtuel que moi, je côtoyais en ligne déjà quand j'étais adolescente et que j'ai vu surgir de manière très réelle, à la fois dans l'actualité et à la fois dans la bouche, en fait, d'élèves de 13, 14, 15 ans. Et il y a des notions, surtout des mots, que moi je retrouvais sur le fin fond d'Internet il y a 10 ans. Je pense au terme de « cuck », par exemple. Alors, en anglais, c'est hérité de « cuckold », qui veut dire, en gros, « maintenir par les couilles », quoi. Et qui a été abrévié en « cuck ». Et qui, sur le 1825 de jeuxvideo.com, signifie un mec qui est soumis aux meufs, quoi. Voilà. Terme qui était vraiment très marginal sur une petite partie du web d'internet francophone des années 2010. Et en fait, maintenant, c'est un terme qu'on entend très souvent dans les salles de classe.
Imite, vas-y. Belle posture, poitrine en avant, menton haut. T'y vas, tu prends pas ta petite voix de « Salut, bonjour, excuse-moi de te déranger. Excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Voilà, vous me plaisez, j'aimerais bien avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. » En mode Dobby, mon frère. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. T'arrives avec ta voix posée, ta voix sereine, calme, ok? Ancré dans tes baskets, mon pote. Et tu te dis qu'au pire, si tu te fais rejeter, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, frérot, tant pis pour elle, c'est toi le prix.
Déjà, ce qu'on peut analyser sur cette vidéo-là, c'est un peu le basique des vidéos de développement personnel, et particulièrement à la sauce masculine. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui est face caméra. La musique derrière est toujours la même, c'est une musique assez calme, voire un petit peu dramatique. Et surtout, ce qu'on constate, bon là, on le voit pas avec le son, mais c'est une vidéo à sous-titres dynamiques. C'est-à-dire qu'au milieu de l'écran, il y a ce qu'il est en train de dire, mais de façon très dynamique avec des émojis. C'est en écriture blanche et parfois jaune sur les domaines importants. Et dans le discours, en fait, tout ce qu'on entend, c'est « sois pas un fragile » quand tu parles aux meufs. Il y a une espèce de présomption aussi de malhonnêteté de la part des femmes, parce que là, dans cette situation-là, c'est vraiment la fin de la vidéo, c'est quand même « c'est toi le prix ». Il y a tout ce commentaire sur l'allure physique et sur la voix qu'on devrait prendre. Il ne faudrait pas avoir peur de déranger, être trop doux. Non, il faut être posé, ancré dans ses baskets, comme il dit. Tout ça, en fait, c'est des vidéos. C'est vrai que quand on les regarde, on tombe dessus, on peut se dire... Alors, au mieux, on peut se dire « Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que j'ai un peu plus confiance en moi. » Ça peut être une bonne chose. Mais en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte de la gravité de ce que ça sous-entend aussi comme discours. Parce que ça, c'est... du masculinisme saupoudré, en fait, mais de manière très acceptable.
Il a son projet de vie, il a sa mission de vie, il a ses ambitions, il a ses perspectives et il a son cadre masculin. La femme, quand elle voit tout ça, naturellement, sa féminité va se soumettre à la masculinité de cet alpha. Donc si tu veux un jour que ta femme se soumette à toi naturellement, et quand je dis se soumettre à toi, attention, c'est pas négatif. Se soumettre à toi, c'est te faire confiance au point de complètement laisser sa féminité s'exprimer, puisque toi, ta masculinité s'exprime aussi.
Là, en fait, les masculinistes sont malins. Enfin, je pense que c'est important de le rappeler quand même, parce que tout le monde pense que c'est vraiment une bande d'idiots, là, mais vraiment pas. Les masculinistes, et particulièrement ces influenceurs, sont très très intelligents. Et en fait, le mot masculiniste, il a été vraiment construit en miroir du terme féministe. En gros, pour dire... C'est très mal vu de dire qu'on déteste les femmes. C'est très mal vu quand même. On va pas, se mentir. Il y a très peu de gens quand même qui vous disent « Ah, moi, je déteste les femmes, j'ai envie qu'elles meurent. » C'est quand même très rare. Mais par contre, c'est beaucoup plus admis de dire « Moi, je défends les hommes. Je suis pour l'émancipation des hommes. Je suis pour respecter leurs droits en tant qu'hommes. » Et en fait, cette position en miroir, elle permet de pas les voir, ces masculinistes, comme... comme des extrémistes, comme des fascistes, ou en tout cas, enfin, pas comme des gens méchants, en fait. On se dit, ah non, mais c'est juste de la même manière que les féministes défendent la cause des femmes et les droits des femmes. Pourquoi, en fait, les hommes n'auraient pas le droit de défendre leurs propres droits et leurs propres idées? Et cette mise en miroir, c'est une stratégie marketing incroyable, en fait, parce que ça permet de dédouaner énormément d'arguments et ça permet de mettre dos à dos ce qu'on considérait comme étant deux points de vue, en fait, deux idéologies. Il y aurait le masculinisme d'un côté, le féminisme de l'autre. Et en fait, les deux seraient aussi valables comme, je sais pas, la gauche et la droite. Et en fait, on essaie de trouver un peu ce qu'on veut là-dedans. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, le masculinisme, à la base, c'est dans une volonté de domination masculine. C'est pas dans une volonté d'égalité. Parce que quand on dit qu'il faut que les hommes retrouvent leurs droits, la question, c'est lesquels ? Quels droits, en fait, les hommes n'ont pas? Et ça, c'est une question qui embête un peu les masculinistes, parce qu'en fait, en France, actuellement, c'est compliqué de dire que les femmes sont en situation de domination, parce que c'est faux, tout simplement.
Respectez la queue! Et... domptez la chatte! Domptez-la! Quelle soit votre merci grâce à la technique que je vais vous apprendre à maîtriser. Et dites non.
Non.
Tu ne me domineras pas. Non.
Non.
Tu ne prendras pas mon âme. Non.
Non.
Tu ne gagneras pas à ce jeu avec moi.
Ouais.
C'est moi qui commande ici. C'est moi ici qui dis oui.
Ouais.
Non.
Non.
Maintenant.
Maintenant.
Ici.
J'ignorais complètement la figure du coach en séduction et c'est par là que je suis rentrée. Donc c'est par là que j'ai commencé à faire mon terrain. Donc c'est à partir du coaching en séduction. Et je me suis retrouvée sans aucune connaissance de ce qu'était la communauté de la séduction à ce moment-là, sans aucune connaissance de ce qu'étaient les études sur les masculinités qui étaient par ailleurs peu développées en France à ce moment-là aussi. Je me suis retrouvée dans une salle pleine d'une centaine d'hommes avec des petits calepins qui prenaient des notes et qui écoutaient donc ce cours de séduction donné par un coach un peu charismatique à l'époque.
Mélanie Gourarier, anthropologue, chercheuse au CNRS.
Moi, je pensais travailler au début sur les rapports hommes-femmes, dans la continuité de ce que je faisais sur le speed dating. Il m'a fallu 6 mois pour me rendre compte que j'avais affaire qu'à des hommes entre eux, qui parlaient des femmes, certes, mais qui passaient tout leur temps entre eux. Donc la trajectoire de la communauté de la séduction, c'est une trajectoire qu'on pourrait qualifier... d'empowerment inversé, si vous voulez. Je dis inversé parce que l'empowerment, on l'emploie plutôt pour parler des personnes minorisées. Donc là, c'est pas le cas. Donc eux, ils essayent de reprendre du pouvoir sur une situation, en fait, à l'intérieur de laquelle ils se croient défavorisés. Ce qu'ils disent, c'est que les hommes auraient perdu tous les pouvoirs aujourd'hui. Mais que le lieu où la reprise du pouvoir serait possible, c'est le lieu de la séduction. Alors je vais m'expliquer. En gros, dans une société qui serait devenue égalitaire, ce qu'ils considèrent comme étant la société actuelle. Aujourd'hui, on serait dans une société où les femmes auraient acquis l'égalité dans tous les domaines, professionnels, intimes, économiques, etc. Mais alors, ce qu'ils disent, c'est que si on est arrivé à une égalité totale, pourquoi les femmes garderaient tous les pouvoirs dans la séduction, puisqu'elles auraient le pouvoir de dire oui et de dire non. Et c'est ça qu'ils contestent. Ils contestent que dans une société égalitaire, ce seraient encore les femmes qui auraient le pouvoir de consentir ou de ne pas consentir. Et ils veulent s'accaparer ce pouvoir-là. Du coup, ce constat-là, en fait, que la séduction et les rapports intimes seraient le lieu, en fait, de la reprise du pouvoir des hommes dans le monde social global, l'arène, en fait, principale du pouvoir, implique qu'il faille descendre les femmes de leur piédestal dans lequel elles seraient. Ça aussi, c'est leur discours. Et donc, pour faire descendre les femmes de leur piédestal, ils développent en fait un certain nombre de stratégies de séduction, de techniques de séduction, qui visent à se rendre supérieures dans l'échange amoureux, dans l'échange sexuel, etc. Donc, eux, ils considèrent qu'ils sont dans une société où on oublie les hommes, dominés par les femmes et par les mères, hein, puisqu'ils accusent aussi leurs mères d'avoir eu un rôle dominateur dans leur... Dans leur histoire, ils regrettent et déplorent que leur père n'ait pas pris leur position de chef de famille, etc. Donc voilà, effectivement, ils regrettent que ils regrettent plus qu'ils regrettent. Ils cherchent à se substituer à cette absence prétendue, en tout cas, de formation des hommes.
Le discours masculiniste, en général, il renverse la réalité. C'est le monde à l'envers, et donc il prend le mot patriarcat, il le met de côté. Il dit en fait, on vit dans un matriarcat. Il dit, il n'y a pas de domination masculine, il y a une domination féminine. Les femmes sont partout. Ils vont même dire, parce que les femmes sont tellement perfides, hein, vous les connaissez, les femmes, elles sont rusées comme c'est pas possible. Et ils vont dire, par exemple, dans un livre qui était paru en France il y a quelques années, Big Mother, il disait, oui, on sait, les chefs politiques sont des hommes. Oui, d'accord, mais en fait, ils sont influencés par des femmes. Donc c'est le fameux mythe de derrière chaque grand homme, il y a une femme qui tire les ficelles. Et surtout, ils incarnent aujourd'hui des valeurs féminines, donc ils se sont démasculinisés. Et donc c'est une illusion de dire que les hommes dominent encore la politique française, parce qu'en fait ce sont tous des efféminés.
Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça.
Oui, mais...
Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Et quand le féminin domine...
Et les valeurs féminines, elles sont incompatibles avec le pouvoir.
Elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes, vous aurez remarqué, qu'aujourd'hui, en fait, les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin.
Alors, les hommes, pour démontrer qu'il y a une crise de la masculinité, à part de dire qu'ils souffrent et qu'ils sont inquiets et tout ça, vont chercher des preuves sous forme de symptômes ou même sous forme de statistiques. Donc, ils vont dire, la preuve que les hommes vont mal par rapport aux femmes, c'est que, par exemple, les garçons réussissent moins bien à l'école. Ce qui est tout à fait vrai, c'est donc là, c'est facile, ils prennent les deux colonnes et ils disent, regardez, les résultats scolaires des garçons et les résultats scolaires des filles, il y a un écart à l'avantage des filles, je dirais de 10, 15, 20% selon les contextes. Et donc là, il dit, vous voyez bien qu'en fait, il y a un problème et que la société est trop féminisée et que l'école est trop féminisée, qu'il y a trop de femmes qui enseignent, que les méthodes pédagogiques sont trop féminines, que les garçons n'ont plus le droit de se chamailler dans la cour de récréation et donc apparemment, à cause de ça, ils sont mauvais en géographie. Et donc voilà. Donc le problème avec ces types de discours, c'est que personne ne remet en question la lecture des colonnes statistiques. Oui, c'est vrai que tendanciellement, l'écart est à l'avantage des filles. Mais le problème avec le discours masculiniste et le discours antiféministe, c'est qu'il oublie de dire que les études montrent que ça, c'est vrai depuis le début du XXe siècle, que c'est vrai dans des États comme aujourd'hui, comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, que c'est vrai dans des pays comme la Russie, comme bref, c'est vrai dans des pays où, je regardais ce matin, en fait, les féministes n'avaient pas encore pris le contrôle. Donc, on voit qu'en fait, la lecture des masculinistes, elle est partielle, elle est partiale. Et pour terminer, elle oublie l'essentiel, c'est que, à part pour des gens comme moi qui sont professeurs, qui ont oublié que l'école, c'est un lieu dont il faut partir un jour, les gens sortent de l'école. Et en fait, les masculinistes ne nous disent jamais, ne nous rappellent jamais que, à diplôme égal ou même avec moins d'études, en fait, les garçons ont tendance à se sentir mieux sur le marché du travail en termes de salaire, en termes d'emploi. Et curieusement, même au chômage, les hommes sentirent mieux que les femmes au chômage en termes de prestations d'assistance sociale, parce que comme ils ont des meilleurs salaires, ils ont des meilleures prestations de chômage.
Vous avez été mis en contact
Avec des contenus masculinistes ou pas?
Je sais pas, on était sur des serveurs, entre autres, c'est là où les gens se regroupent. On a subi, c'est même pas qu'on voulait voir, parce qu'on a été... on n'était pas consommateurs, quoi. On était là, au moment, et on a vu.
Nils et Zadig, élèves de seconde au lycée Jacques de Cour à Paris.
En fait, il y a plein de gens sur Discord, c'est vraiment des gros incels qui font rien de leur vie et qui passent leur temps à dire « Oui, je suis meilleur que les femmes, mais bon, dans ce monde, aucune femme veut de moi, etc. » Et après, c'est vraiment des communautés très très regroupées de Discord, parce que vous imaginez bien que les personnes un peu normales sur Discord, on les voit pas très bien, ce genre de personnes. Et juste, c'est carrément une insulte, en fait, de dire que t'es un incel. Ils sont dans leur coin, et rester dans votre coin, c'est bien, on veut pas trop de vous.
Souvent, c'est pas des hommes dans la réalité, c'est vraiment une image qui se donne sur Internet. Et oui, je suis le meilleur, Nani, je suis très musclé, très fort, très beau. Et voilà, je suis meilleur que toutes les femmes sur cette planète.
Incel, c'est quelqu'un qui se croit supérieur aux femmes, mais qui se plaint continuellement qu'aucune femme veut de lui. Et que les femmes ont comme devoir de l'aimer et de l'aduler.
Je n'oublie pas de réviser.
Clairement, un des phénomènes très importants qu'il y a depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle en anglais les involuntary celibate. Qu'on traduit souvent par célibataire involontaire, mais une meilleure traduction, ce serait les chastes involontaires. Ce sont des réseaux de dizaines de milliers de jeunes hommes, 15, 16, 17 ans, jusqu'au milieu de vingtaine, qui, eux, se lamentent de ne pas avoir de relations sexuelles. Et que les femmes, en fait, regardent toujours et désirent toujours des hommes qui seraient plus désirables qu'eux. Et donc, eux, non seulement se lamentent, mais de ces réseaux, malheureusement, il y a eu des cas aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, d'attentats à la voiture Bélier, à l'arme blanche ou aux armes à feu, d'hommes qui se revendiquaient du mouvement incel, ou que les incels ont identifié comme des héros, qui ont tué des tueurs de masse, qui ont perpétré des attentats en disant « j'ai pas de sexualité, les femmes me refusent la sexualité, je vais me venger ».
À partir de 2014, aux États-Unis, en Angleterre, un peu en Allemagne aussi, quasiment chaque année, on a plusieurs tueries masculinistes. Souvent perpétrés par des incels. Les incels, c'est donc le groupe le plus extrême, et souvent c'est des personnes qui ont des problèmes psychologiques, des dépressions, des envies suicidaires, et qui parfois considèrent qu'il vaut mieux entraîner d'autres gens avec eux plutôt que juste leur propre mort. Et on a un peu tendance à penser que la France est très éloignée de tout ça, parce que le masculinisme, les incels, c'est un truc très anglophone, etc. Souvent, au niveau européen, en France, on met un peu dans le même panier tout ce qui est misogynie et attentats d'extrême droite. Souvent, des fois, il y a des liens dans certaines valeurs, en fait, de la famille, la tradition, la masculinité, etc. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué à distancier les deux, quoi. Mais il n'empêche que on le voit quand, du côté des militantes féministes qui sont régulièrement attaquées par l'extrême droite, il y a une dimension qui est fortement misogyne et antiféministe. Donc, en fait, il y a une réelle menace du masculinisme. Le truc, c'est qu'on a, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on la voit pas, ou en tout cas, on fait genre de pas la voir, et on préfère se focus sur d'autres formes de violence. Mais c'est une menace grandissante, bien évidemment.
Je ne sais pas s'il y a plus de masculinistes aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier, certainement, il y en a. Il y en a qui s'expriment sur différents fronts. Il y a des nouveaux fronts qui s'ouvrent. Et assurément, ça se nourrit aussi. Et là, je ne dis pas que tous les masculinistes sont de cet alignement politique, parce qu'en fait, sur le spectre politique classique, si on parle de extrême droite, droite, centre, gauche, extrême gauche, en fait, on peut dire que, tendanciellement, les masculinistes sont plus à droite, mais que vous pouvez être masculiniste et être à gauche et même à l'extrême gauche. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce qui est certain, c'est que, dans la mesure où depuis 10, 15, 20 ans, aux États-Unis, en France, en Italie, en Hongrie, etc., les forces de droite et d'extrême droite poussent et se développent et sont en montée en puissance, ça, c'est sûr que ça nourrit le masculinisme, parce que les discours d'extrême droite, les discours, même en fait, fascistes, ils se nourrissent aussi de ce discours de la crise de la masculinité.
Alors, le ouin-ouin, figure emblématique des mâles traumatisés par cette révolution des mœurs qui inclut le point médian, mais aucune blague sexiste, ni saillie drôlatique héritée des colons, le ouin-ouin n'a de cesse de se poser en victime. Il ne peut plus rien dire et pleure des larmes de sang en subissant chaque jour les remarques hystériques de ces féminazis qui menacent d'empailler sa paire de testicules pour en faire un sautoir. Nostalgique d'un hier où la virilité imposait le respect en sa suprématie, où qui était un homme possédant une Audi avait la certitude de lever une femme classe, le ouin-ouin regarde sa vie s'engrosser de frustration. Il ne trouve plus sa place et plutôt que de l'inventer, il aspire à être plein et contemple dans le miroir le carré de sa mâchoire se crisper sous les sanglots. Ça fait un bon selfie pour son profil Tinder. Le ouin-ouin, c'est celui qui pleure des larmes de sang parce qu'on ne peut plus rien dire.
Chloé Delhomme, romancière.
Et que désormais, pincer les fesses de sa secrétaire pose problème. Voilà, ça c'est le ouin-ouin. Nous avons aussi des écrivains ouin-ouin fort célèbres, tels Frédéric Becbédé ou Feu Solaire, ce qui, à mon avis, aurait fait un excellent ouin-ouin.
Pourquoi ils font ouin-ouin ?
Ils font ouin-ouin parce qu'ils veulent pas lâcher les privilèges, parce qu'ils sont souvent dans un déni assez éhonté des dits privilèges. Et je crois aussi que le côté... chez chaque masculiniste et chaque homme qui la ramène très fort, il y a un petit garçon derrière qui a beaucoup de mal avec la notion de frustration. Et le fait qu'on leur supprime ce qui était du... Au-delà du... Enfin, oui, du privilège et donc de l'abus et de la domination très forte avec une aliénation en face, ça le frustre et ça le met en colère. Hein. Et donc, du coup, il gêne. Je pense que le fait que l'espace leur appartient comme les corps qui s'y trouvent, qui est une formule qui me semble très adaptée, le fait que ça s'arrête et qu'il y ait de la résistance en face, ils le tolèrent pas. Peut-être que c'est ça dont le ouin-ouin veut se dédouaner aussi, c'est la responsabilité en fait. Et puisque le courage est censé être un des apanages virilistes, peut-être qu'il est grand temps que tous ces messieurs fassent preuve de courage, ouais.
Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, les hommes de maintenant, qui nous entourent, en France en tout cas, qui se trappent dans le rôle de victime des avancées égalitaires de notre pays, sont a priori des gens qui ont peur de perdre leur statut social, en fait.
Auteur de bande dessinée.
Et qui ont peur d'être quelque part... déclassé dans le genre, ou déclassé socialement, ça panique probablement certains mecs. Et puis, par ailleurs, faut pas non plus aller dans le côté « oh, pauvre chouchou », mais il faut réfléchir à qu'est-ce qui pétrifie les hommes encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, l'arrivée finalement d'un regard féminin de la société, si tout d'un coup la société offre un regard féminin de plus en plus apparent, qu'est-ce qui fait que ça les panique ?
Je pense que c'est quelque chose qui est assez
Daisy Le Tourneur.
Difficile à articuler et il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber.
Autrice de On n'est pas mec.
C'est que d'un côté, je pense que c'est vrai que c'est l'entrée dans la masculinité des garçons se fait de façon assez violente. On leur apprend en fait à se couper de leurs émotions. On leur apprend à devoir avoir l'air fort en toutes circonstances, à respecter un nombre d'injonctions assez terribles et avec une discipline qui peut être vraiment sévère. Et je pense qu'il faut pas nier ça, en fait. Il y a rien à gagner à nier rentrer dans un moule social, en fait, c'est toujours faire des sacrifices, c'est toujours difficile. Le problème, c'est quand ce discours-là, il est instrumentalisé pour dire, regardez, finalement, les hommes, ils souffrent au moins autant que les femmes, si ce n'est plus, et ils sont peut-être, autant les victimes du patriarcat. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce discours-là? Et bien souvent, dans les discours masculinistes, c'est regardez, en fait, nous aussi, on a souffert, donc arrêtez de vous plaindre et on laisse les choses telles quelles, plutôt que de réfléchir à mais comment on essaie de réduire ces souffrances-là, en fait. Et l'autre chose à retenir, c'est que si toutes ces souffrances sont imposées aux hommes, c'est pas parce que on vit juste dans une société qui est cruelle avec les hommes, c'est parce que c'est tout un système qui permet l'exploitation et l'oppression des femmes. Et au bout du parcours, ça reste quand même les hommes qui sont dans toutes les places les plus importantes de notre société. Ça reste les hommes qui tuent les femmes bien plus souvent que l'inverse. Ça reste les hommes qui les dominent économiquement, qui commettent des agressions sexuelles, etc., etc. Et ça, il faut pas l'oublier dans un discours qui dirait juste c'est terrible, les petits garçons n'ont pas le droit de pleurer.
Il faut qu'il y ait une prise en charge collective côté masculin, mais pour ça, il faut que ceux qui ont une façon de penser qui est dominante acceptent qu'ils soient dans le faux et qu'ils soient dans une forme de résistance qui abîme absolument tout le monde. Et je suis pas sûre que le dominant ait très envie, on ait quelque chose à foutre, en fait, déjà. C'est là qu'est le problème, quoi. C'est comment est-ce qu'on fait lâcher un pouvoir toxique à une personne qui en jouit. C'est un peu difficile. Qui a envie de lâcher?
Yo soy caro y todo el mundo me quiere, cabrón. Yo soy como un Frenchie. Las baby me aman, les compro cartera, yo no compro Elche. Mucho Dior, Gucci, mucho Givenchy. Tú no ves, cabrón, estoy burlao. Burlao, jajaja, muerto la risa, yo estoy burlao. Me siento solo.
Être un bonhomme, épisode 3. La grande peur d'Alpha, une série documentaire de Romain de Begdelièvre, réalisée par David Jacubovies. Avec Daisy Le Tourneur, Francis Dupuy-Derry, Jean-Charles Macera, Luz, Michael Delis, Audrey Voile, Pauline Ferrari, Mélanie Gourarier et Chloé Delos. Merci au Race RC Modélisme de Castelnaudary. Prise de son, Yann Fressy, Jeffrey Marianne, Jean-Guilain Meige, Noé Chaban et Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Mathieu Tourin. Documentation, Annelise Signoret. Documentation musicale, Pierre Plantin et Loïc Delacour. Coordination, Johanna Bedeau. Chargée de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Vamos a hacer un brindis, ustedes comprando prendas, yo comprando building, la vieja loca conmigo, como si yo fuera Wilkin. À suivre, Être un bonhomme, épisode 4, performer des modèles. En el toto tiene piso, posicio con el mo, en el skyline andamos risa, haciendo plata, estamos busy, yo no voy para arriba, nene cabrón, yo mando el nene del Nisi. Puedo, pero es difícil. Pa' mí es fácil, yo estoy burlao. Burlao, ja, ja, ja. Muerto la risa, yo estoy burlao. Me siento solo a veces, no tengo nadie al lado. Llevo 5 años en la cima, como Tindón Camposteao. Ey, a mí me va cabrón, en casa de campo, perico ripiao. Burlao, ja, ja, ja. Muerto la risa, yo estoy burlao. En el carrito de Red Bull me salieron alas, estoy volao. Ando con lo mismo que andaba cuando estaba pelado. Ni que roncar, mami, que no sea cari pelado. Ey, vengo de PR, de donde son las verdaderas bichotas. Qué casualidad, los que se hacen más calles siempre salen chotas. Carones que critican mi vida y no viajan más que mi mascota.
Por eso yo sigo los consejos que me dio mi abuelo, que me dio el Pacino. La vida es más fácil comiendo rigatón y bebiendo vino un ratito en Francia, viendo la mañana con un cappuccino. A los que creyeron desde el día uno, gracias. Un saludo pa' Pino, Pajero, pa' Coco, pa' John y Pandino. Gracias, papá Dios, por la gente buena, pues está en mi camino. El que tiene Billboard no tiene Grammy. El que tiene Grammy no tiene Billboard. Mira mi trophy case, cómo lo combino. En mi combo todos son finos, como los violines. Los tuyos se van de la sala el día que tu movie se termine. Los míos se quedan hasta que Dios nos enseñe los créditos. Leyenda como el sol, sí, como el sol de México. Cuando Curry no existía, de Acacia no la metía. Fácil desde luego, muchos que decían que en mí no creían. Pobre demagogo, cabrón, tú eres loco. ¿Cómo tú vas a dudar de más cabrón que le metes? 4 de la mañana en el estudio con Beto y Cachete. De 9 dígitos, ahora son los cheques. Las putas pidiéndome fuerte billete. Me gustan los blondes, también las brunetes. Los cascos en el body, le gusta el piquete. Mami, ey. Que viva PR, no suelto el machete. Soy, vuelve con Dive, pero sin jinete.